Je m'appelle François Parcy, je vais vous parler de domestication des plantes, c'est-à-dire l'adaptation des plantes aux besoins des humains, les humains consommateurs, les humains agriculteurs. Même si, c'est vrai, j'ai fait des travaux sur le chou-fleur, c'est pas mon sujet de recherche, en fait, la domestication. Hein. Moi, je travaille sur les fleurs. Comment les fleurs se forment, comment on arrive à partir d'un, vous voyez, une petite bosse de cellules qui ressemble à rien à faire des magnifiques organes comme les pétales, les étamines. Donc c'est ça qu'on appelle la morphogénèse, la genèse des formes, des couleurs, etc. Et on s'intéresse aussi à l'origine des fleurs, hein, d'où elles viennent. Parce que voilà, il y a 150 millions d'années, il n'y avait pas de fleurs sur Terre. Il y avait déjà plein de plantes, mais zéro fleurs. Et donc ça me pose des questions d'évolution. Et en étudiant les fleurs, je me suis rendu compte qu'en fait... ça ressemblait beaucoup au sujet de la domestication, parce que la domestication, c'est aussi de l'évolution. C'est aussi de la genèse de forme et de l'évolution, c'est-à-dire une pression de sélection qui est appliquée, et qui va modifier les êtres vivants. L'évolution naturelle des plantes terrestres, c'est 450 millions d'années. L'évolution sous domestication, c'est 10 000 ans. Donc c'est des échelles de temps très, très différentes. Mais l'avantage de cette évolution très rapide, c'est qu'on a encore les ancêtres. Donc si vous voulez, si vous étudiez les mammifères, vous rêvez de savoir à quoi ressemblait l'ancêtre commun de la souris et de l'homme, mais vous ne l'aurez pas, quoi. Elle a disparu depuis bien longtemps. Mais quand on s'intéresse à l'ancêtre commun d'une plante cultivée, et voilà, on peut encore retrouver dans la nature son ancêtre. Et puis aussi, la domestication, les grands principes, comme vous allez le voir, ils sont régis par des gènes, qu'on appelle souvent les gènes architectes, qui sont les mêmes que ceux qui vont donner naissance aux fleurs, aux tiges, aux feuilles, etc. C'est-à-dire que les gènes qui bâtissent la plante sont aussi ceux sur lesquels a joué la pression de sélection humaine pour donner ces variétés que vous consommez. Donc, je trouve que c'est un joli sujet, c'est un sujet de biologie, c'est un sujet d'évolution, et ça, c'est des choses qui me passionnent, mais aussi, c'est un sujet de société. Parce que vous le savez sûrement, l'agriculture, elle fait face à des défis énormes, j'en parlerai un peu vers la fin. On a des choix à faire pour le futur de notre agriculture, et moi, je suis vraiment convaincu que ces choix-là, il faut les faire de façon informée et pas de façon dogmatique. Et c'est pour ça que je fais l'effort de faire un aller-retour dans la journée, parce que je considère vraiment important de parler à tout le monde. Et je disais à Raphaël, je parle aux classes de terminale, je parle à des doctorants, je parle à des gens comme vous, du grand public large, parce que je considère que c'est vraiment important d'aller chercher la source de l'information auprès des scientifiques et voilà, de se faire son propre avis à partir de connaissances et pas juste à partir de sentiments ou de croyances. Voilà, ça c'était l'introduction. Donc, je vais vous parler un peu qu'est-ce que c'est la domestication, hein, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a sélectionné les mutations. Ça, c'est le passé un peu lointain. Ensuite, je vais vous parler de technologies un peu plus modernes, jusqu'à rentrer dans des choses très récentes qui s'appellent les plantes transgéniques, que vous avez entendu parler sous le nom d'OGM. Et après, on abordera un nouveau sujet qui est vraiment frémissant là et qui a un grand potentiel. C'est le sujet qui est communément appelé les nouveaux OGM ou l'édition du génome. On verra ça. Alors, pour commencer, je vais vous montrer une plante ancestrale et vous devrez deviner quelle est la plante moderne que vous consommez. Les plantes, on les a modifiées profondément. La banane. Mais déjà, vous voyez des choses un peu inhabituelles, hein, parce que vous voyez une banane, elle est toute petite, elle est pleine de graines, elle a une chair qui est peu abondante. Par ailleurs, cette chair, elle n'est pas du tout sucrée, elle est même assez immangeable. Et donc, c'est un beau jour, hein, deux espèces de bananes qui se sont croisées, sans doute naturellement, et qui ont donné une banane sans graines, avec une chair qui avait un bien meilleur goût. Et évidemment, après, la sélection humaine, elle a favorisé l'absence... Alors, si vous regardez, vous avez des tout petits points noirs dans les bananes. Il y a quand même des graines minuscules, mais voilà, vous n'avez pas à les recracher comme on faisait avant. On a des tas de bananes parce que les végétaux, comme tous les êtres vivants, arrivent avec une diversité génétique. Ils ne sont pas tous identiques, on ne se ressemble pas tous exactement. Et la pression de sélection s'applique sur cette diversité et sélectionne des caractères qui plaisent, en l'occurrence, aux humains, puisqu'on est dans le champ et on n'est pas... dans la nature. On continue ? Donc là, c'est classique, hein, j'ai toujours cerise, mais si vous regardez bien, vous regardez les petits restes de sépales, voilà, on voit les feuilles et tout, au deuxième regard, on voit que ce sont des pommes, sauf que ce sont des pommes qui ont des tailles de cerise, et là aussi, la domestication, elle a fait grandir les fruits, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la chair sucrée, etc. Non, on les a fait grandir, et aujourd'hui, on a des belles pommes comme ça, comme on les aime bien. On continue. Et ça, c'est la carotte, Docus carota, c'est la carotte... qu'on trouve en Europe. Aujourd'hui, les carottes, on les trouve sous plein de formes différentes. Alors, elles sont un peu plus grosses, mais surtout, il y a toutes les couleurs. Alors, à une certaine époque, en Europe et dans les champs, aujourd'hui, si vous vous promenez dans la nature, vous trouvez encore des carottes qui ressemblent à ça. Mais les carottes que vous consommez, qui sont les carottes oranges, elles ne sont pas issues de domestication en Europe. C'est des carottes qui sont arrivées d'Asie, qui étaient au départ violettes, qui ont perdu leur couleur, leur violette, et qui étaient un peu rosacées, qui ensuite ont été recroisées. Alors, l'histoire exacte, on ne la connaît pas, on la cherche, l'histoire exacte. Mais on sait qu'il a fallu des mélanges entre des carottes asiatiques, des carottes européennes, pour aller donner les carottes oranges, qui ont eu un grand succès. Bon, aujourd'hui, on retrouve sur les marchés un peu les autres, mais ça reste la majorité. On continue avec des toutes petites épines sur les sépales. C'est l'aubergine. Alors, tomate et aubergine, c'est comme les poivrons, les piments, tout ça. C'est la grande famille des solanacées, la pomme de terre, le tabac. Donc, c'est dans le même grand groupe de plantes. Mais il y a une plasticité au niveau des fruits qui est hallucinante. Et je pourrais vous montrer des tomates qui ressemblent exactement à des aubergines. Et là, je vous montre des aubergines qui ressemblent beaucoup à des tomates. Aujourd'hui, voilà, on est habitué à un fruit qui a changé de couleur, qui a changé de forme, qui a beaucoup moins de graines, etc. Alors, de plus en plus dur, et là je vous mets le nom latin, comme ça je vous donne la réponse directement, Prunus persica. Prunus persica, c'est la pêche. Mais vous voyez la tête de cette pêche, hein, avec une peau épaisse, cireuse. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aime chez les pêches? On aime la chair sucrée, abondante, etc. La pêche, à l'origine, c'était un tiers de noyau. Donc c'était un fruit beaucoup plus petit, qui avait beaucoup plus de noyau qu'aujourd'hui. Et la peau, elle était épaisse, cirée. Et le goût, alors le goût était variable, encore une fois, on avait toute cette diversité. Parfois, c'était un peu sucré, parfois, c'était terreux, parfois, c'était salé, parfois, c'était acide. D'accord ? Et donc, dans cette diversité, les humains, ils ont sélectionné celle qui était le plus sucrée. L'autre chose qu'on constate, c'est qu'à l'origine, elle vient de Chine, la pêche. Il y a quelques millions d'années, la pêche et l'amandier étaient un même arbre. Et ensuite, il y a une chaîne de montagnes qui s'est élevée. Du côté désertique, ça s'est transformé en amande, et de l'autre côté, plus tropical, ça a donné les pêchers. Donc ça, c'est pour vous dire aussi qu'il y a de l'évolution naturelle, et ensuite, les humains arrivent et appliquent une pression de détection très forte pour aller faire grossir ces fruits, etc. Et on avait à l'origine 3 variétés sauvages connues, mais des variétés avec beaucoup de diversité intrinsèque, et on les a transformées en 200 variétés, mais qui sont beaucoup plus homogènes, où quand vous plantez un champ, les arbres se ressemblent, la récolte des fruits... Ils sont tous à peu près identiques, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de variétés, mais chacune de ces variétés est extrêmement homogène. Et ça, c'est un effet de la domestication. Des goulets d'étranglement génétique, on enlève la diversité, et on a des choses où quand on sait, quand on récolte, on va pouvoir vendre des fruits calibrés, etc. Territoire de culture, il est sorti de la Chine, il est allé dans le monde entier. Si vous allez au Chili, les Chiliens, certains sont persuadés que ça vient de chez eux. Nous, on est persuadés que c'est un fruit méditerranéen, etc. Alors qu'en fait, ça pousse dans le monde parce que ça a été adapté. Une plante qui vient de Chine, l'adapter à une latitude très au sud ou très au nord, c'est pas du tout évident. On n'y pense pas, mais en réalité, il faut profondément modifier la génétique des pêchers pour qu'ils puissent fleurir, donner des fruits dans des régions dont ils ne viennent pas. Et ça, c'est aussi une des grandes idées de la domestication, c'est modifier le territoire de culture parce que la plante, elle répond à l'environnement, elle répond à la température, elle répond à la durée du jour et de la nuit. Et qu'en fait, la durée du jour et de la nuit, si vous passez du Chili à l'Équateur, c'est radicalement différent. Et ça, elle le perçoit, elle réagit en conséquence. Citrullus lanatus, la pastèque. Mais vous voyez la différence ? C'est que là, il n'y a pas de chair rouge, en fait. Et la pastèque, elle est pleine d'un composé qui s'appelle la cucurbitacine, qui est ignoble, hein, c'est super amer et tout, c'est utilisé comme médicament aujourd'hui. Donc on cultive encore des variétés de concombres ou de pastèques qui sont pleines de cucurbitacine. Mais évidemment, l'usage que vous aimez bien, c'est ça. Hein. C'est le moins de graines possible, le plus de chair, le plus de sucre. Et donc là aussi, la sélection, elle s'est appliquée jusqu'à... Si je vous montre une photo de famille, on reconnaît à peine ça, on sait que ça, c'est l'ancêtre. D'où ça vient? Il y a eu beaucoup de débats, parce qu'à une époque, on disait le désert du Namib, là, entre Namibie et Angola. Après, on a dit un peu plus au nord, en Afrique. Là, j'ai lu, avant de venir, parce que chaque fois, je me dis, est-ce que ça a bougé? J'ai lu Soudan, Égypte, et on a des choses, on a des œuvres d'art égyptiennes où on voit des ancêtres de pastèques. Mais encore une fois, c'est pas facile de savoir l'origine de ces légumes ou de ces fruits d'aujourd'hui, parce qu'il faut faire des tas d'études génétiques, comparer aux plantes sauvages et retrouver la trace. Le territoire de culture, le nombre de variétés, vous voyez, vous avez le même schéma que pour la pêche, hein. On a énormément de variétés, on les cultive quasiment dans le monde entier, ça pousse très bien. Mais avant, on avait quelque chose de tout petit, avec beaucoup de graines, un goût de noix, la cucurbitacine, ça provoquait des inflammations. Et on avait très peu de variétés, mais avec une grande diversité, dans laquelle on a pioché pour sélectionner sur des milliers d'années, ce qui nous convient. Ça, je vous donne la réponse directement, hein, le melon. Pareil, hein, beaucoup de graines, très peu de chair. Mais ce que vous voyez, c'est qu'on n'a pas fini. Hein, ça aussi, j'aime bien cette idée-là, c'est qu'on se dit, le melon, il est domestiqué, mais il reste beaucoup de graines. Hein. Peut-être un jour, on aura un melon où il n'y aura plus de graines du tout. Peut-être un jour, on aura des fruits de la passion, il n'y aura que de la chair, on pourra croquer dans les fruits de la passion. Peut-être. Parce qu'en vérité, c'est un processus qui avance et voilà, il peut encore se passer énormément de choses dans un temps assez court. Alors là, je vous en montre un, avec aussi la réponse en latin. Il y a 7 bonnes réponses, donc vous pouvez y aller. Alors, chou, oui. Voilà, c'est les brassicas. Donc le chou vert, ça marche. Là, je parle de la même espèce, vraiment. Hein. La même espèce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chou? Chou-fleur. Romanesco, voilà. Avec, vous voyez, des différences de couleurs. Hein. Il y a des choux oranges et des choux violets. Ça, c'est pareil, on connaît aujourd'hui la nature de ces différences. Ce sont aussi des différences génétiques. Par exemple, celui-là, là, le pigment orange, c'est un pigment qui est normalement accumulé, mais il est dégradé tout de suite. Et chez cette variété de choux, il est stocké dans un petit compartiment à l'intérieur des cellules, ce qui fait qu'en fait, il s'accumule, il n'est pas dégradé. Et donc, il y a cette couleur orange qui apparaît, mais c'est un composé qui est toujours synthétisé, même chez le chou blanc, là, qui est crème. En fait, il y a une quantité infime, c'est simplement l'augmentation de la quantité qui change radicalement l'apparence. Le chou violet, c'est ce qu'on appelle les anthocyanines, c'est un composé violet très courant dans les fleurs, dans l'aubergine et tout ça, qui s'accumule aussi, mais pour d'autres raisons. Alors, on a dit chou-fleur, chou-vert, chou-romanesco, brocoli, chou-rouge, chou-cal, chou de Bruxelles, chou-rave. Chou-rave, donc là, je crois qu'on les a tous vus. Et au centre, vous avez l'ancêtre qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une petite moutarde ou un petit colza. Hein. Si vous prenez un colza en plus petit, ça, c'est un chou, en vérité. C'est l'inflorescence, c'est-à-dire la tige qui porte les fleurs, elle ressemble à ça. Ce sont des petites fleurs qui sont blanches ou jaunes à 4 pétales. On appelait ça des crucifères avant. Et en fait, ce sont là encore des mutations, des modifications génétiques qui font que la fleur n'est pas capable de se former dans un premier temps. Et en fait, on fait comme ça une accumulation de petites fleurs sur des petites fleurs sur des petites fleurs qui n'arrivent jamais au bout de leur développement. Et ça donne cet amoncellement qui parfois est spectaculairement beau, comme dans le cas du chou romanesco. Alors, maintenant, on parle de riz. Mais là, je vous ai mis cette photo pour que vous essayiez de deviner qu'est-ce qui s'est passé entre la variété domestiquée et la variété sauvage. Et un point très important qui a été sélectionné très tôt chez l'orge, le seigle, le riz, le maïs, le blé, c'est la capacité des graines à rester attachées à l'épi. Imaginez, hein, si vous êtes agriculteur ou même à une époque reculée, hein, si vous devez à quatre pattes ramasser les graines sous la plante, c'est pas facile. Si ça reste attaché à l'épi, là c'est un avantage majeur. Et donc pour l'agriculteur, pour la personne qui récolte, c'est un avantage majeur. Et donc en fait, normalement, chez les céréales, il y a une petite zone qui devient cassante. Donc elle, la plante, elle est programmée génétiquement pour avoir cette zone qui se différencie, qui devient cassante, parfois même avec de la tension. Et quand la graine est mûre, clac, le moindre coup de vent, le passage d'un animal, etc., ça détache la graine. Et donc les humains, eux, ils ont contre-sélectionné ce phénomène-là avec une zone qu'on appelle la zone de déhiscence qui ne se développe pas. En fait, elle reste attachée, les cellules ne deviennent pas cassantes, et comme ça, on a des graines qui restent attachées à l'épi. Et ça, je vous dis, ça a été fait chez toutes les céréales, mais sous d'autres formes, ça a aussi été fait chez le colza, par exemple, avec une gousse qui reste fermée, au lieu d'éclater et de jeter ses graines, parfois à plusieurs mètres. Alors, voilà, je finis avec mes petits exemples. La tomate, une taille énorme. Il n'y a pas que la taille, la tomate, elle vient de l'Équateur et du Pérou. À l'équateur, les jours ont tous la même longueur que la... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça change pas pendant l'année. En gros, c'est 12 heures. Pour faire fleurir des tomates chez nous, pour les faire fleurir en Argentine ou au Chili, il faut avoir modifié les tomates. La tomate, c'est une plante qui peut faire 4-5 mètres de haut. Normalement, hein, elle pousse très haute. Et puis, alors, il y a encore aujourd'hui dans des exploitations où on fait pousser ces grands plants, mais celles qu'on récolte au ras du sol de façon mécanisée et tout, ce sont aussi des mutants qui ont une architecture différente, qui s'arrêtent de pousser, et où toutes les tomates mûrissent à peu près en même temps, alors que si c'est une plante de 5 mètres, ben en bas vous avez des tomates pourries, et en haut vous avez des jeunes fleurs, et au milieu vous avez des tomates mangeables, quoi. Donc ça veut dire qu'on récolte une à une, on ne peut pas récolter de façon mécanisée ou tout d'un coup. Il n'y a pas que ce qu'on mange, il y a ce qui nous habille aussi. Donc les fibres de coton aussi ont été domestiquées, de fibres courtes et brunes, enfin un peu beige. On est passé à des fibres longues et blanches. On a aussi sélectionné des céréales qu'on appelle des céréales miracles, mais qui sont des céréales naines, donc beaucoup plus courtes que ce qu'elles étaient à une époque. Et ça, c'est parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on a sélectionné des gros épis, les plants avaient tendance à se coucher avec les orages ou avec le vent, etc. C'est ce qu'on appelle le phénomène de verse. Et en fait, pour contrebalancer ce phénomène de verse, on a sélectionné des plantes naines qui étaient capables de porter des épis beaucoup plus gros. Et donc, je suis persuadé que si vous vous promenez dans les champs de blé, vous savez très bien que dans votre enfance, ils arrivaient à l'épaule des agriculteurs. Aujourd'hui, ils arrivent sous les bras ou à la taille, hein, parce que vraiment, ça a été énormément réduit de notre vivant. Là, je ne suis pas en train de parler des chasseurs-cueilleurs. Hein. Vraiment, c'est notre vivant, quoi. L'orge a été domestiquée. Alors là, c'est un bel exemple aussi parce que l'orge ancienne, c'était un épi avec deux rangs de graines. L'orge moderne, c'est six rangs. C'est-à-dire qu'en fait, là, la graine telle qu'on la connaissait dans les orges ancestrales, il y a deux structures stériles qui entourent la graine, avec une mutation qui s'est produite plein de fois, à plein d'endroits différents, qui a été sélectionnée par des groupes humains différents. Ça triple d'un coup la récolte. En vérité, c'est un peu exagéré parce que la plante, elle produit un peu moins, mais là où vous aviez deux rangs, vous avez six rangs. Et ça, c'est utilisé. Alors, l'orge aujourd'hui, c'est surtout de la nourriture animale. Hein. On en produit beaucoup pour ça. Mais pour faire la bière, on continue d'utiliser l'orge ancienne à un à deux rangs, avec juste celle-là, parce que les propriétés pour la bière sont apparemment meilleures. Et enfin, alors un exemple emblématique, je vous en parlerai un peu plus dans la suite, qui est quasiment méconnaissable, c'est le maïs, qui vient d'une plante qui s'appelle la théosinte, une plante qu'on trouve au Mexique. Vous voyez en bas à gauche, vous avez l'épi de théosinte, moins de 10 grains, enfermé dans une coquille solide, qu'il fallait casser pour libérer la graine. Et aujourd'hui, on est habitué à des maïs avec des épis, avec des centaines de grains nus, plus du tout de coquille. Et ça, ça nous semble naturel, mais en fait, le chemin qu'il y a eu entre l'ancêtre et le maïs était absolument phénoménal. Et là, vous allez reconnaître maintenant que je radote, là, je dis toujours les mêmes choses. On avait une variété qui existait, enfin une espèce qui existait seulement au Mexique et qui s'est répandue dans le monde entier. Le maïs fait partie des trois grandes céréales avec le blé et le riz qui nous procurent 75% de nos calories hein, au niveau mondial. Donc c'est devenu voilà, un succès planétaire, pour le meilleur et pour le pire. On pourrait parler de ça aussi, hein, mais en tout cas, succès planétaire. Donc, si on veut résumer tout ce que je vous ai dit là, comment les plantes ont changé d'apparence, ben, on a des graines et des fruits qui restent accrochés, on a des plantes plus petites, on a des graines plus grosses, des fruits plus gros et plus nombreux, on a changé la couleur, on a changé l'architecture de la plante. J'ai aussi vaguement abordé déplacer les plantes dans l'espace, ça veut dire la sensibilité à la durée du jour ou de la nuit, qu'on appelle la photopériode. Je n'ai pas parlé, mais c'est important aussi, le besoin de l'hiver. Il y a des plantes qui vont fleurir que si elles ont connu un hiver rigoureux. Si on veut les faire pousser dans des endroits où l'hiver n'est pas rigoureux, ben il faut des modifications profondes pour qu'elles fleurissent, même si l'hiver n'a pas été rigoureux. Peut-être que vous avez entendu parler des blés de printemps et des blés d'hiver. Les blés d'hiver, on les sème à l'automne et ils ne fleurissent que si l'hiver passe. Les blés de printemps, ils fleurissent au printemps. Ben, ça existe pour plein de plantes. C'est ce qu'on appelle le besoin en vernalisation. Et la dormance également. La dormance, c'est la capacité d'une graine à ne pas germer même si on la sème. Parce que dans la nature, ben on étale, la nature étale la germination. Il y a des graines qui germent la première année, d'autres la cinquième et d'autres la vingtième. Mais l'agriculteur, lui, il n'a pas du tout envie hein, que ces graines elles germent étalées dans le temps. Donc on a sélectionné des graines à très faible dormance pour qu'elles germent toutes ensemble dans le champ. Après, il y a aussi des processus de priming, je ne rentre pas dans les détails. Ok, ça c'est pour un peu l'apparence. Hein. Mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas qui sont en fait sur le contenu des végétaux. Je parlais de la cucurbitacine de la pastèque. Les amandes, à l'origine, étaient mortelles. Elles renferment un composé qui s'appelle l'amygdaline, qui est un composé mortel. Pour les chimistes, là, vous reconnaissez le C triple liaison N. Ça, c'est du cyanure. Donc, quand vous allez manger l'amygdaline, et ça n'existe pas que dans l'amande, vous savez, ça existe dans l'abricot, enfin, la plupart des prunus, ils ont ça. Quand vous digérez l'amygdaline, vous libérez du cyanure, et avec 30 amandes, vous êtes mort. Pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a des amandes douces qui ne sont plus amères et qui ne renferment presque plus d'amygdaline. Presque plus. Si vous prenez des appareils de mesure sophistiqués, hein, et c'est facile, vous allez voir qu'il y a encore du contenu d'amygdaline. Aujourd'hui, on vous dirait, tiens, on a une nouvelle graine, là, allez la manger, elle renferme un composé toxique en faible quantité. On dirait tous, oh, c'est scandaleux, c'est non, tout ça. Alors qu'on en mange depuis des millénaires et qu'une fois qu'elle est douce, c'est pas grave. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce composé, il est. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la biochimie, on part de ce qu'on appelle un acide aminé, c'est ce qui compose toutes nos protéines, donc c'est un truc très répandu et tout ça. Et en quatre réactions chimiques, on arrive à l'amygdaline. Et en fait, le mutant d'amande douce, c'est un mutant chez lequel le contenu des enzymes 1, 2 et 3 est réduit. Et donc, la voie de biosynthèse, la fabrication de ce composé, elle marche, mais elle marche à très faible régime. Et donc, à la fin, on a un tout petit peu d'amygdaline et on la cultive, on la mange, etc. Et dans un autre registre, on a aussi un composé. Alors là, il n'est pas mortel, il est juste amer. C'est ce qu'on appelle les tanins. Les tanins, c'est ce qu'on trouvait dans les écorces de chêne pour tanner les peaux. Là. Mais ça existe dans le sorgho. Le sorgho, c'est une plante importante puisqu'elle n'est pas dans les trois céréales, mais elle est dans les cinq. Et en fait, c'est une plante qui résiste bien à la sécheresse. C'est une plante qui fait sa graine au printemps quand il y a de l'eau en abondance et pas comme le maïs en été quand il y a moins d'eau. Et donc en fait, et c'est une plante aussi qui a un métabolisme comme le maïs ou la canne à sucre qui est très efficace, c'est-à-dire que la quantité de protéines, de sucre ou d'amidon qu'elle va produire, elle va être très bonne par rapport à l'eau qu'elle consomme. C'est des plantes très efficaces. Donc le sorgho, si vous promenez dans le sud de la France, là, petit à petit, il est en train de remplacer, par exemple, le maïs dans la Drôme. La Drôme, ils ont des problèmes d'eau en été, et ils mettent de plus en plus de sorgho. Eh bien, le sorgho, à l'origine, il était très amer. Et on a sélectionné, les humains en Afrique ont sélectionné des sorghos qui étaient moins amers, avec des contenus réduits en tanins. Il y a une étude qui est parue il n'y a pas très longtemps dans le journal Science, où en fait c'est une équipe chinoise qui étudiait comme ça, qu'est-ce qui est différent dans les gènes pour qu'il y ait des sorghos amers et des sorghos doux. Et donc ils avaient un champ expérimental avec des rangées, comme ça, des rangées de sorghos doux, des rangées de sorghos amers. Et ils voyaient les oiseaux ne se posaient que sur les rangées de sorghos doux, ils ne touchaient pas aux sorghos amers. Et donc ils ont étudié les populations d'oiseaux en Afrique, et en particulier, il y en a un qui est tout mignon là, qui s'appelle le Kelea Kelea, qui est un petit moineau. Alors il arrive par milliers, il va vous dévaster un champ. Ils se sont rendus compte que dans les endroits d'Afrique où il y avait beaucoup d'oiseaux, les gens continuaient de cultiver du sorgho assez amer, alors que dans les régions comme l'ouest de l'Afrique où il y avait très peu d'oiseaux, alors ils avaient pu cultiver du sorgho doux. Donc ça veut dire, vous voyez, ce qui est présent dans la nature, ça a contraint la domestication. Mais alors le plus phénoménal, c'est qu'on connaît chez nous, les humains, le récepteur dans l'amertume. On sait ce qui fait qu'on est vraiment dégoûté ou un peu moins dégoûté par l'amertume. Et ils ont trouvé que dans les régions où il y avait beaucoup d'oiseaux et le sorgho amer, les humains avaient plus souvent une mutation qui réduisait leur sensibilité à l'amertume. Donc vous voyez, c'est vraiment un ménage à trois, là. C'est les humains, les animaux, les plantes. Et en fait, c'est de l'évolution, mais en système contraint. Ce n'est pas l'évolution naturelle, c'est l'évolution avec les contraintes de l'homme. Sans doute, le scénario, c'est que là où il y avait trop d'oiseaux, les humains n'ont pas pu sélectionner ces sorghos doux, et donc c'était un avantage sélectif chez les humains d'avoir une mutation dans le récepteur à l'amertume. Voilà. Donc ça, c'était mon tour d'horizon du passé. Qu'est-ce qu'on en conclut ? Qu'en fait, toutes ces plantes que vous consommez, elles ne ressemblent pas exactement à leurs ancêtres, visuellement, pour leur facilité à grandir dans différents territoires, pour leur contenu, elles sont différentes de leurs ancêtres, et que cette différence, c'est une différence génétique. C'est héritable. C'est-à-dire quand vous semez une amande non amère, vous allez récupérer une amande non amère. C'est héritable tout ça. Si c'est héritable, c'est que c'est gravé dans le génome et que c'est de la génétique. Donc en fait, tout ce que vous mangez, et là je fais exprès de commencer à vous provoquer un peu, tout ce que vous mangez, c'est génétiquement modifié par rapport aux plantes naturelles. La grande différence par rapport à il y a 40 ans, c'est qu'on commence à le comprendre. C'est-à-dire qu'avant, on se doutait que c'était génétique. On voyait bien quand on faisait des croisements, il y avait de l'héritabilité, mais on ne connaissait pas les gènes en question. On ne connaissait pas le gène de l'amande douce, le gène de la graine nue, on ne connaissait rien à tout ça. Et depuis les années 2000, donc ça fait 25 ans, qu'on commence à savoir vraiment, au niveau des gènes, au niveau moléculaire, quelles sont ces différences qui font qu'une plante cultivée est différente d'une plante sauvage. Et si on le sait, ça veut dire, on peut se poser la question, ah, est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? Et là, j'ouvre une petite fenêtre sur la fin de ma présentation. Alors, pour vous parler de ces mutations de domestication, c'est-à-dire les différences génétiques qui font qu'une plante est différente de son ancêtre, je reviens sur le cas du maïs, parce que le maïs, c'est un exemple fantastique. Le maïs, en fait, on a des restes archéologiques. Donc, on sait que les épis, ils ne sont pas passés du jour au lendemain de la théosinte au maïs comme ça. On a des restes archéologiques, on a des petites statuettes des Incas, et des Mayas et des Aztèques et tout ça. Et on sait qu'il y a des petits épis qui étaient intermédiaires. Et en fait, alors ça c'est une anecdote assez amusante, mais ces deux personnages là que vous voyez, c'est Mangelsdorf et Biddle. Apparemment, la légende dit que c'est leur seul poignée de main, parce que c'est des ennemis jurés. Et en fait, alors Biddle, quand il était étudiant, même pas en thèse, il était encore en l'équivalent de la licence, il a travaillé avec un généticien mexicain, et il a été un des premiers à proposer que le maïs descende de la théosinte, c'est-à-dire que cette plante-là vienne de celle-là. Et alors Mangelsdorf, il y croyait pas du tout, mais pas du tout, quoi. Mangelsdorf, il disait, non, mais c'est pas possible, l'évolution, elle va pas retirer des coquilles, une coquille, c'est protecteur, l'évolution, elle peut pas faire ça, elle peut pas retirer des coquilles, l'évolution, elle va doucement, là, c'est un truc qui s'est passé en quelques milliers d'années, c'est pas possible. Donc Mangelsdorf, il a bâti toute sa carrière pour dire n'importe quoi, le maïs ne descend pas de la théosinte, au contraire, c'est la théosinte qui descend du maïs. Le maïs, c'est la plante sauvage dans la nature, et sous l'effet de l'évolution naturelle, le maïs s'est transformé en théosinte. Donc, Biddle, une fois qu'il a... Alors, il n'a pas continué sur ce sujet-là. Il a fait des études de, vraiment de génétique formelle. Il a démontré qu'on pouvait relier un gène à une protéine, exercer un travail qui lui a valu le prix Nobel. Mangelsdorff, il a continué à répéter toute sa vie quelque chose de faux. Il est devenu professeur à Harvard. Il avait beaucoup de succès auprès du grand public par ses discours. Les scientifiques y doutaient un peu. Et George Biddle, une fois qu'il a été à la retraite, il s'est dit « Bon, allez, je vais régler mon compte à la théorie hein, de la, du maïs qui a donné la théosinte. » Il s'est remis à étudier ça. Alors, c'était un excellent généticien. Il a commencé par faire un croisement entre la théosinte et le maïs, on peut croiser ces deux plantes-là. Il a obtenu une première génération qu'il a fécondée. Et après, il a semé un champ avec des milliers de plantes. Et dans ce champ, il a vu des épis identiques à ceux de la théosinte, des épis identiques à ceux du maïs moderne. Et il a vu plein d'intermédiaires avec des tailles différentes, avec des enveloppes un peu à moitié fermées, avec un nombre de grains très variable. Et en fait, il a dit, vous voyez ça, en fait, ça veut dire que c'est la même plante. Et il y a des caractères qui ont changé, qui font qu'on a voilà, un maïs moderne. Et comme il était généticien, il a tenté d'estimer à partir du champ la proportion de ceux qui avaient beaucoup de grains, pas beaucoup de grains, des coquilles, pas de coquilles. Et il a dit, ben voilà, moi je pense que la différence entre maïs et théosinte, c'est 5 gènes, 5 variations dans des gènes, 5. Alors, c'est un peu optimiste, hein, mais il a prédit qu'il y avait 5 gènes majeurs qui expliquaient la différence de forme entre la plante de maïs et la plante de théosinte. Alors, le premier qui a été identifié dans les années 2000, même 2000 ou peut-être 99, je ne sais plus, c'est celui qui explique la différence de forme de la plante entière. Là, on ne parle pas d'épi, on parle de la plante. La plante de théosinte, on l'a dit buissonnante, quoi. Elle a plein de branches dans tous les sens, et au bout de chacune de ces branches, elle a un petit épi avec 7 graines, 8 graines, etc., enfermées dans leur coquille. Et donc, elle a ce port très buissonnant avec des tas de tiges différentes. Alors que le maïs moderne, il a été sélectionné pour être planté à haute densité, dans des champs comme ça, où en fait, hop, il y a une tige principale, vous savez à quoi ça ressemble, avec 2-3 épis massifs. Et en fait, le travail qui a été fait par un Américain qui s'appelle John Dubley, ça a consisté à identifier un des gènes qui explique cette différence de forme entre la plante de théosinte et la plante de maïs. Il a identifié un gène qui s'appelle TB1, peu importe, théosinte branched 1, TB1. Et en fait, ce gène, il est présent dans les deux plantes, simplement, et son rôle, c'est d'empêcher la croissance des branches. Donc son rôle, c'est d'empêcher que ça pousse. Mais il est très faible chez la théosinte. Il marche très mal. C'est ce qu'on appelle, nous, son activité ou son niveau d'expression est très faible. Donc en fait, il est bien là, il est capable de fonctionner, mais il fonctionne tout doucement. Et donc les branches poussent. Par contre, chez le maïs moderne, là, il est très très actif, il empêche la croissance des branches. Et cette différence-là, elle a été identifiée depuis. Je ne sais pas si vous savez ça, mais dans les génomes, il y a des séquences sauteuses qu'on appelle des éléments transposables. Il y avait un article dans Le Monde il n'y a pas longtemps là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que chez la théosinte, il y a une séquence qui a sauté à côté de TB1 et qui a énormément boosté son activité, ce qui fait que hop, ça a enlevé toutes les branches latérales de la tige principale. Donc TB1, historiquement, c'est le premier gène de domestication. À partir de 2000, on a pu dire, voilà, on savait qu'il y avait des gènes derrière, maintenant on connaît ces gènes. Et donc, si j'ai envie de changer l'architecture d'une plante, je sais que je peux jouer sur TB1. Ailleurs, je peux prendre une plante autre et jouer sur TB1. Les deuxièmes qui a été identifié, toujours pas John Dubley, c'est le gène de la graine nue, il s'appelle TGA1, peu importe pourquoi. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont créé un plan de théosinte où ils ont introduit dans ce plan la version maïs du gène TGA1. Donc, c'est que de la théosinte, sauf à un petit endroit du génome, il y a le gène du maïs. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On ne voit pas des graines nues, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais en fait, là, il y a la coquille, et là, il y a la graine au milieu. On voit des coquilles qui ne sont pas fermées complètement, qui sont entrouvertes. Et donc, ça veut dire que TGA1, oui, il a un rôle important, mais il ne change pas tout, quoi. On ne fait pas d'une graine enfermée vers une graine nue directement avec une seule mutation. Sans doute, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, je le dis sans le savoir, parce qu'on ne connaît pas exactement l'historique, mais on peut imaginer qu'un beau jour, chez les Incas, quelqu'un a vu comme ça une graine avec la coquille entrouverte. Alors, soit il l'a mangée, c'était fini, soit il en a gardé, il l'a ressemé. Dans le champ, ensuite, il a vu des plants entiers avec des graines ouvertes. Il en a vu plein. Et sans doute, ils se sont dit, ah ben, c'est plus facile pour ouvrir les graines que d'avoir à taper dessus avec des pierres. Les Incas, ils avaient beaucoup d'or et du cuivre, mais ils n'avaient pas de métal, ils n'avaient pas d'acier, ils n'avaient pas de métal dur, hein. Ils n'avaient pas d'acier ni de fer. Donc, sans doute, ça, c'était un tel avantage que cette graine-là, elle a fait traîner de poudre. Elle est passée de village en village avec sa mutation qui donnait la coquille à moitié ouverte. Donc là, vous voyez, quand je vous disais goulet d'étranglement génétique, si vous prenez une graine, vous faites des champs entiers avec une graine, la diversité génétique, elle est drôlement réduite. Hein. Et peut-être que, je dis n'importe quoi, 300 ans après, à partir de cette coquille entrouverte, on a une deuxième mutation, et là, il n'y a eu plus de coquille du tout, et la graine était nue. Donc, sans doute, c'est un processus progressif qui fait que, petit à petit, on est arrivé à une graine complètement nue. Voilà. Donc ça, c'est des exemples historiques. Et je trouve que c'est bien de se poser la question. Vous savez, en français, on dit amélioration des plantes. Et moi, je trouve que le maïs, c'est un bel exemple. On peut se poser la question, est-ce qu'on a amélioré les plantes, toi ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le maïs est amélioré par rapport à la théosinte ? Alors, qu'est-ce qu'il a ? Il a une architecture différente. Il a les grains qui restent tous attachés à l'épi, tous collés ensemble, qui ne sont pas protégés. Est-ce que vous pensez, par exemple, que le maïs, dans la nature, a de grandes chances de survie, quoi ? Est-ce que vous avez déjà vu les champs de maïs se disséminer dans la nature et les forêts se faire envahir par le maïs ? On le voit difficilement, c'est parce qu'en fait, le maïs, dans la nature, il a ce qu'on appelle le fitness, là, sa capacité à survivre et à se propager, elle est extrêmement faible. Et donc, des fois, j'entends, si on fait des nouvelles cultures, il faut craindre les plantes invasives. Mais craindre les plantes cultivées invasives, c'est comme craindre l'invasion des forêts sibériennes par les caniches et les chihuahuas. C'est la même chose, en fait. Quand on a domestiqué les loups, on a fait toutes les variétés de chiens que vous connaissez bien. Est-ce qu'on redoute que les caniches envahissent la nature ? Mais non, bien sûr que non. Parce que l'équivalent de la théosinte, c'est le loup. Et donc, c'est une plante qui est costaud dans la nature. Par contre, le maïs moderne, lui, il a besoin qu'on enlève les mauvaises herbes, qu'on lui donne de l'eau, qu'on lui donne de l'engrais, qu'on enlève les insectes, etc. Il a besoin qu'on le chouchoute comme les humains chouchoutent leurs chiens dans nos salons. C'est la même chose. Donc, dans le grand débat, si on fait des variétés nouvelles, elles vont devenir invasives. En fait, ça, c'est juste que ça n'existe pas, quoi. Il y a le colza, OK, il va un peu dans les fossés. OK. Mais si vous avez un jardin ou si vous cultivez des choses, vous savez très bien qu'il faut tous nos soins, hein, sinon ça ne marche pas, quoi. Donc, dans le passé, personne ne s'est inquiété de l'invasivité des plantes cultivées et on a abondamment importé des plantes venues en particulier du continent américain. Là, vous voyez les solanacées, hein, tomates, aubergines, poivrons, pommes de terre, mais aussi des courges, des courgettes, les haricots, les avocats, le maïs. Tout ça, allègrement, ça a traversé l'Atlantique, c'est venu chez nous. Aujourd'hui, réfléchissez notre cuisine méditerranéenne. Si on lui enlève tout ça, qu'est-ce qu'il lui reste, quoi ? Je peux vous dire ce qu'il lui reste. Il lui resterait des carottes, mais pas les oranges, des carottes beiges, betteraves, poireaux, figues, artichauts, les choux. Ce ne serait pas du tout les mêmes, parce que les choux qu'on mange aujourd'hui, ils viennent d'un cal venu d'Asie. Moutarde, noisette, mais imaginez votre cuisine, la richesse de votre cuisine, si vous deviez vivre des plantes endogènes, quoi, des plantes locales. Ce serait un peu moins amusant. OK, alors, donc dans le passé, maintenant je fais un petit zoom arrière pour vous dire qu'on va parler un peu d'autre chose. Dans le passé, on a sélectionné des plantes. On sait que ce qu'on a sélectionné, ce sont des variants génétiques. C'est-à-dire qu'en fait, on a pioché dans la diversité des caractères qui nous intéressaient, encore une fois, comme consommateurs ou comme agriculteurs. Parce que réduire la dormance, le consommateur s'en fout, le paysan, il s'en fout pas. Donc, on a sélectionné tout ça. Mais petit à petit, au XXe siècle, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était ça la richesse, c'était la diversité. C'était d'avoir des plantes qui avaient des allèles qu'on appelle des variants différents. Et donc, au lieu d'attendre que cette diversité se produise naturellement, au lieu d'attendre dans notre champ là, que le maïs perde ses coquilles, on pouvait aussi croiser des maïs entre eux et voir si le fait de faire des croisements, ça ne faisait pas des combinaisons génétiques qui n'avaient jamais existé dans la nature ou qui avaient existé mais qui avaient été contre-sélectionnées par la nature et si on ne pouvait pas créer des nouvelles combinaisons. Donc ce qui s'est beaucoup fait pour accélérer la production, alors tout ce que vous mangez aujourd'hui, ça ne date pas d'il y a 200 ans, hein, c'est des fruits et légumes qui sont pour la plupart récents. Ça a été fait en croisant des variétés. Vous prenez une variété d'un endroit, une variété d'un autre endroit, elles ont accumulé des mutations pendant 10 000 ans, 100 000 ans, en fonction de l'éloignement, et vous les mettez ensemble, et là, vous créez des combinaisons génétiques qui n'ont jamais été vues, et peut-être que vous aurez une pêche plus sucrée, une chair qui se détache du noyau, une peau plus fine, je sais quoi, une couleur différente. Donc ça, on l'a abondamment utilisé, on fait des croisements de plantes qui, dans la nature, ne se rencontreraient jamais. Si vous prenez un riz africain avec un riz asiatique, c'est l'humain qui les croise. Eux, ils ne se seraient pas rencontrés. Donc on force un croisement, on crée des nouvelles combinaisons et on pioche dans cette diversité des caractères intéressants en plus. Et même, on peut faire des choses encore pires, il n'y a pas de jugement de valeur, mais on peut faire des choses encore plus sévères. On peut croiser un amandier avec un abricotier. Alors là, ça s'égrège dans tous les sens. On a des choses qui ressemblent un peu à l'amande, un peu à l'abricot. On peut piocher comme ça des amandes qui nous plaisent plus ou des abricots qui nous plaisent plus. On peut même croiser des espèces. Donc c'est ce qu'on appelle les hybrides interspécifiques. On franchit la barrière d'espèces, mais on doit les chouchouter, leur donner plein de soins pour les sauver au départ. En faisant ça, les agronomes et tout ça se sont rendus compte qu'il y avait un phénomène extrêmement intéressant qui s'appelle la vigueur hybride, qui consiste à avoir deux parents qui sont chacun très homogènes génétiquement et qui ne sont pas spécialement performants, mais quand on va les croiser, la première génération va être extrêmement vigoureuse. Elle va être résistante aux attaques, aux changements climatiques, elle va avoir un rendement très fort. Mais ça, c'est perdu dans les générations d'après. C'est ce qu'on appelle la vigueur hybride. C'est vrai dans la première génération, la génération F1, et c'est perdu, enfin ça s'amenuise, en F2 c'est déjà moins fort, et en F3 c'est quasiment tout perdu. Ça, je vous en parle parce que la plupart des semences qu'achètent alors soit les jardiniers, soit les agriculteurs, ce sont des hybrides F1. Et c'est à l'origine d'une très grande confusion dans le public que j'entends tout le temps, c'est les OGM sont stériles, les industriels font en sorte que les gens ne puissent pas ressemer. Les plantes stériles, ce n'est pas commercialisé, ça n'existe pas à la vente. Simplement, la vigueur hybride, qui est la raison pour laquelle on achète ces semences, elle va être perdue. Ce qui fait que le paysan, qu'est-ce qu'il va faire? Il préfère donner de l'argent au semencier pour avoir une très bonne récolte que repartir de ses graines, en semer une partie et avoir une récolte pas terrible. C'est pas vrai pour toutes les plantes. Le blé, en fait, les paysans gardent une partie de leur récolte. Il n'a pas été amélioré par vigueur hybride. Donc le blé, on peut ressemer le blé. Hein, ça se ressème. Mais là, quand même, il y a un système pour que le paysan il donne un peu d'argent au semencier de façon à ce que lui continue sa recherche et 5 ans après, il lui fournisse de nouveau des graines performantes. Donc, c'est un système différent. OK. Donc, on fait des croisements qui ne seraient pas produits entre des variétés lointaines, entre des espèces. On utilise la vigueur hybride. Mais en fait, si on veut créer de la diversité, au lieu d'attendre que les mutations arrivent parce que la nature fait des erreurs ou parce que le soleil a tapé dessus ou les rayonnements... Hein, on peut aussi nous-mêmes introduire des mutations en appliquant des radiations sur les plantes. Donc il existe ce qu'on appelle la mutagénèse. Elle peut se faire soit par des mutagènes chimiques, soit par des rayons gamma, soit des rayons X. Et il y a énormément de fruits et légumes que vous mangez qui ont été obtenus par mutagénèse. En fait, c'est juste, on fait des mutations dans le génome, ensuite on sélectionne, et on a un pamplemousse tout rose qui nous plaît beaucoup, on le garde, parce qu'il nous plaît, il a des jolies couleurs, etc. Et on le commercialise. Donc ça, la mutagénèse, ça a été découvert dans les années 1930 par une scientifique allemande qui s'appelle Amy Stein, que je salue, parce qu'elle est en fait l'arrière-grand-tante de ma femme. Et elle aurait largement mérité le prix Nobel pour sa découverte, parce qu'elle a découvert qu'en fait, des radiations donnaient des défauts héritables dans un génome. Elle a découvert ça sur la gueule de loup. C'est un travail magnifique. Mais à l'époque... Être femme en science, ce n'était pas facile. Il y a Müller qui a eu le prix Nobel pour exactement la même découverte chez la drosophile, mais sauf qu'il a fait ça 6 ans après elle. Donc c'est pour ça que je profite de cette audience. À chaque fois, je salue Amy Stein, qui était vraiment une personne assez extraordinaire, un peu, pas très adaptée à son époque. Elle avait une petite amie, elle se promenait dans le monde entier, elle s'est bagarrée pour faire une thèse et tout ça, mais c'est une personne assez remarquable. Et donc elle a découvert qu'on pouvait introduire des mutations héritables dans le génome des organismes vivants, en particulier sur les plantes, et ça, on l'a beaucoup utilisé. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit, alors là, je vous donne des chiffres, c'est grosso modo, hein, c'est vraiment pas précis, ça va dépendre, les tailles de génome de plantes, ça varie énormément. Mais on va mettre entre 10 000 et... entre 100 000 mutations et 10 millions de mutations dans un génome, ça va donner des caractères favorables, mais aussi des défavorables, et ensuite, on va faire des rétrocroisements, on va nettoyer ça, et à la fin, vous avez une plante qui a des caractères qui vous intéressent, et qui aura hérité de, 5 000 mutations, 500 mutations, peu importe, quelques centaines ou quelques milliers de mutations. Donc ça, c'est utilisé, et là, c'est pas régulé, ça. C'est-à-dire qu'en fait, en Europe, comme dans le monde entier, on n'a même pas besoin d'étiqueter ces plantes-là. Or, vous comprenez, elles sont génétiquement modifiées par des radiations, bien sûr. Mais ça fait depuis les années, depuis l'après-guerre qu'on l'utilise. Et donc, on sait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Les mutations, c'est comme les mutations naturelles, naturelles ou pas naturelles, ça ne change rien. Et donc ça, on ne les régule pas parce qu'il y a ce qu'on appelle un historique d'usage sans danger. C'est ce qu'on mange depuis 80 ans. Et maintenant, on va aborder à la fin, là, les véritables, ce qu'on appelle les OGM. Alors, dans le langage courant, moi, je n'utilise pas OGM parce que je trouve que ça introduit trop de confusion. Les plantes mutagénisées sont des OGM, mais elles ne sont pas régulées. Donc, moi, je vais parler de plantes transgéniques, et c'est celles-là qui sont régulées, et c'est celles-là dont vous entendez parler en général dans les médias, avec le terme OGM. Donc, les plantes transgéniques, ce sont des plantes chez lesquelles on a introduit un ADN étranger. Donc là, on n'utilise pas seulement la génétique, mais la biologie moléculaire. On utilise la capacité naturelle, mais qu'on détourne complètement d'une bactérie, à aller introduire des gènes dans le génome de son hôte. Ça existe par exemple entre le chêne et cette agrobactérie. Quand vous voyez la gale du collet, en fait, c'est la bactérie qui s'installe dans le chêne et qui lui fait comprendre qu'il faut qu'il produise ce qu'elle aime bien. Elle aime bien des petites substances qui s'appellent les opines. Et donc, elle transfère des gènes de synthèse des opines et le chêne, allègrement, produit la nourriture préférée des bactéries. C'est un exemple de parasitisme classique. Hein. Elle ne lui donne rien, elle mange ce que lui produit sous ses ordres. Eh bien, dans les années 80, des scientifiques belges, allemands et français ont découvert qu'en fait, quel était le mécanisme de ce transfert. Et donc, ils ont désarmé l'agrobactérie. Elle ne transfère plus les gènes d'opine. Elle transfère les gènes qu'on décide, nous. On peut introduire ce qu'on veut. On peut prendre des gènes de méduse, des gènes de ce que vous voulez. On peut mettre dans les plantes des gènes venant de tous les règnes. Et ça, c'est ce qu'on appelle les plantes transgéniques. Qu'est-ce qu'on en a fait massivement? C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire tout avec ça. Mais ce qu'on a fait surtout, c'est des plantes qui résistent aux herbicides. Vous avez sans doute entendu parler de ça, les sojas qui poussent en Argentine, par exemple. Ce sont des sojas qui vont résister à un herbicide. Donc, au lieu d'arracher les mauvaises herbes à la main, comme ça se faisait au début du siècle, on passe un gros coup d'herbicide. Le soja transgénique y survit. Et les mauvaises herbes, elles meurent. Et voilà. Ça, c'est bien, c'est pas bien. Ah, c'est complexe. Parce qu'on applique toujours le même herbicide, donc on génère des résistances, on utilise de plus en plus. Oui, mais au lieu de passer un tracteur avec, où on va labourer, on ne laboure pas, donc on abîme moins le sol. Et alors, voilà. Donc, il y a du bon, du pas bon, mais clairement, on utilise des produits. Hein, je veux dire, là, quand on fait ça, utilisation massive d'herbicides. Le deuxième grand exemple de plante transgénique qui a été utilisé vraiment là encore hein, chez le soja, chez le maïs, etc., c'est la résistance aux insectes. Là, vous avez un exemple de larve d'un insecte qui s'appelle la pyrale, qui fait des dégâts que vous pouvez voir considérables sur les épis de maïs. Et en fait, depuis longtemps, on sait qu'il y a un bacille, donc une bactérie, qui produit une substance insecticide. Elle a une toxine qu'elle produit naturellement. Et donc, comme c'est produit par un être vivant, on dit, ah ben ça, c'est un produit naturel, donc pas dangereux. Alors là, je fais exprès de dire ça, hein. L'amygdaline est naturelle, donc pas dangereux. Ça n'a pas de sens, en fait, ça. On dit, le BT, voilà, BT s'appelle cette toxine, on l'appelle la toxine BT, Bacillus thuringiensis. On dit la toxine BT, elle est naturelle, donc c'est bio. Et donc, on peut l'utiliser, et c'était utilisé très largement en épandage sur les champs de maïs, ce que vous voulez, dès qu'il y avait des pyrales ou d'autres insectes, on épandait le BT. Et ça, c'est, je vous ai mis le paquet exprès là, insecticide biologique. Et donc, ce qu'ont fait les scientifiques, c'est qu'ils sont allés cloner le gène de la toxine chez la bacille, ils l'ont introduit dans le maïs, et maintenant, si la pyrale, elle attaque le maïs, elle meurt tout de suite, parce qu'en fait, elle mange de l'insecticide au sein du maïs. Et les insectes qui ne mangent pas le maïs, ils ne sont plus affectés parce qu'eux, ils ne seront jamais touchés. L'insecticide vient de l'intérieur du maïs. Alors ça, c'est bien, c'est pas bien. Ma foi, ça évite les épandages. Le paysan n'achète plus de BT aux vendeurs de produits, quoi. Mais on utilise toujours le même insecticide, donc on met une pression de sélection sur le champ. Et donc, il est largement conseillé de ne pas faire ça à 100%, mais d'avoir des champs refuges où les insectes pourront proliférer, où on perturbera moins les populations. Et il y a des tas de cas où ces champs refuges ne sont pas utilisés, et donc il y a des déséquilibres de population d'insectes, etc. Donc là encore, c'est ni noir ni blanc, quoi. Ça rend les paysans moins dépendants de la personne qui leur vend les produits, mais c'est une production permanente d'insecticides, donc il y a du bon, il y a du pas bon. Toujours est-il qu'au niveau mondial, les deux grandes utilisations de plantes transgéniques, ça a été résistance aux herbicides et résistance aux insectes. D'accord ? Voilà, retenez ça parce que souvent, on ne sait pas trop ce que c'est ces OGM. Et alors, je vais vous parler de la dernière révolution qui a valu le prix Nobel à Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier, hein, deux chercheuses, une américaine et une française, qui consiste à utiliser une technologie qui s'appelle CRISPR-Cas9. Alors, des fois, on dit les ciseaux moléculaires, des fois, on dit l'édition des génomes. Ça, il faut absolument en avoir entendu parler, parce que c'est une révolution en médecine, c'est une révolution même pour les maladies génétiques, il y a des tas d'applications. Là, on va s'intéresser à quelque chose d'un peu moins problématique au niveau de l'éthique, que, vous voyez, modifier des humains, c'est une chose, modifier des animaux, là, on va parler de plantes. En fait, grâce à cette technologie, plutôt que de mettre des mutations, comme je vous ai dit là, 10 millions de mutations, et ensuite on fait le tri, on cherche ce qui pourrait bien nous intéresser, là on dit, ah, j'ai appris que le gène TB1 changeait l'architecture de la plante. J'ai appris que le gène TGA1 changeait la coquille des graines. Donc je vais prendre un plant de maïs ancestral qui me plaît bien parce qu'il a bon goût, parce qu'il résiste aux maladies, je vais insérer moi-même une mutation dans le gène TGA1 pour enlever la coquille. Ça veut dire, aujourd'hui, au lieu de couvrir de mutations n'importe où et de faire le tri après, on est capable de choisir l'endroit où on va introduire ces mutations. Et donc, ça veut dire qu'on peut utiliser 40 ans de génétique moléculaire, dont je, enfin, moi, je ne suis pas témoin de ces 40 ans, mais j'ai commencé mes travaux en 90, là où ça, la biologie moléculaire des plantes vraiment démarrait. Et depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, 35 ans d'accumulation de connaissances. Et aujourd'hui, grâce à cette technologie, on peut exploiter ces connaissances. Alors, quand même, hein, est-ce qu'on a envie d'aller vers ça? Est-ce qu'on a envie forcément d'utiliser la dernière technologie, se dire, allez, hop, on sait faire, donc on le fait? Est-ce qu'on en a besoin ou non? Je vous donne mon avis personnel, là. Et donc c'est un avis pas seulement de scientifique, mais de citoyen. Hein. C'est que l'agriculture, le défi auquel elle doit faire face aujourd'hui, il est colossal. Et c'est un défi, c'est pas un défi. Pour moi, c'est trois défis. C'est continuer à nourrir le monde alors que le climat change, et à des prix qui permettent aux agriculteurs de vivre et aux consommateurs de se nourrir. Là, ça, c'est déjà un enjeu, enfin, c'est un sacré challenge. Éviter d'aggraver la crise climatique, parce que notre alimentation, c'est 25% de l'impact carbone, hein, donc de nos activités, donc éviter. Et même l'atténuer, parce que qui capte le carbone mieux que les plantes? C'est les plantes qui captent le carbone, qui le fixent. Donc, l'agriculture, on lui demande, voilà, moins d'impact, et si possible, même, on fixe du carbone. Et en plus, il y a une exigence tout à fait justifié, d'utiliser moins d'intrants, moins d'eau, moins de pesticides, évidemment, pour leur toxicité, et moins d'engrais, parce qu'on a bientôt plus d'engrais phosphatés qui ne sont pas pollués par des métaux lourds, etc. Donc l'agriculture, elle a des enjeux énormes. Est-ce qu'on va résoudre ces enjeux simplement avec CRISPR-Cas9 et on ne change rien d'autre? Bien sûr que non, quoi. Bien sûr que non. Il y a des tas de choses qu'on peut changer. On peut changer notre alimentation, on peut changer où on se fournit en légumes, on peut changer, par exemple, mettre du sorgho à la place du maïs. Il y a des tas de choses qu'on peut faire. Mais moi, je pense que la capacité à utiliser la biodiversité existante et la biodiversité qu'on choisit, qu'on induit, ça fait partie des solutions. Et donc, je vais finir juste par illustrer ce propos en vous disant qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce nouvel outil. Ce qui a été déjà fait, donc ce n'est pas juste du rêve, hein, ça c'est publié il y a plusieurs années déjà, ça a été de prendre des tomates qui poussent en Bolivie, certaines qui résistent au sol salé, ce qu'on appelle des plantes halophytes. Ça, si vous allez voir dans les Pyrénées orientales, là, où la mer commence à remonter, faire pousser des plantes sur sol salé, c'est un véritable enjeu. Ces tomates-là, elles savent faire. Simplement, elles ont une architecture en liane là, de 4 mètres, elles ont des fruits tout petits, elles n'ont pas du tout ce qu'on veut. Mais on connaît les mutations pour les transformer. Donc les gens, ils ont pris cette tomate qui résistait au sol salé, ils en ont pris une autre qui résistait à des maladies naturellement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de pesticides, elle résistait aux maladies, et ils ont introduit 6 mutations qui ont changé l'architecture de la plante, alors ça c'était déjà présent, qui ont changé la forme des grappes, le contenu en vitamines, la taille des fruits, et qui ont permis de les cultiver en Europe et pas seulement en Équateur. Et donc ils ont ce qu'on appelle fait de la domestication de novo. Ils ont pris une plante sauvage et avec 6 mutations, ils ont modifié la plante comme les humains l'avaient fait en plusieurs milliers d'années, sauf que là, ils ont fait ça en quelques mois, peut-être 1 ou 2 ans. Ce qui a été fait aussi, ça marche, c'est de rendre, par exemple, là, des tomates résistantes au mildiou. Parce qu'en fait, vous savez, chez les plantes, il y a ce qu'on appelle des gènes de susceptibilité. Si le gène est là, la plante est sensible à la maladie. Si vous enlevez le gène, la plante devient insensible à la maladie. Elle se défend toute seule. Évidemment, elle se défend toute seule dans la nature. Personne ne va aller dans les forêts mettre des pesticides. Les plantes, elles arrivent très bien à se défendre. Mais elles ont la diversité des gènes de susceptibilité, des gènes de résistance. On sait que nous, en sélectionnant, on a fait ce goulot d'étranglement de la diversité génétique. Vous connaissez tous l'exemple de la famine irlandaise sur la pomme de terre. Une maladie arrive, Phytophthora infestans. Hop, elle décime tous les champs, parce qu'on avait des clones dans les champs, on avait toutes les mêmes. Aujourd'hui, on sait, chez la pomme de terre, ça a été fait chez la tomate, si vous enlevez un gène de susceptibilité, la plante devient naturellement tolérante à la maladie, elle ne souffre plus. C'est pareil, hein, je ne vous dis pas c'est la panacée, parce qu'il y aura des contournements, tout ça, mais en fait, on a les moyens aujourd'hui de rendre les plantes naturellement résistantes, et donc d'éviter les pesticides. Souvent, on tue les insectes, parce qu'ils sont vecteurs de maladies, pas parce qu'ils mangent la plante. Hein. On les tue parce qu'ils sont vecteurs de virus, ils sont vecteurs de voilà. Donc ça, c'est une façon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On sait très bien qu'on a surtout domestiqué des plantes annuelles, donc des plantes qui poussent et qui meurent et qu'on doit labourer, ressemer, parce que pour la génétique, c'est beaucoup plus simple, les cycles sont rapides, etc. Mais on sait que les céréales, il existe des céréales qui sont vivaces, qui sont pérennes. et qu'on pourrait leur couper la tête chaque année et bénéficier d'un système racinaire beaucoup plus profond. S'il y a une petite sécheresse qui arrive dans le champ, vous imaginez bien qu'avec des racines qui sont deux fois ou trois fois plus longues, ça tolère beaucoup mieux. Par ailleurs, nous, les généticiens, on a compris comment on pouvait convertir une plante annuelle en une plante pérenne. On sait faire. Ça s'est produit de nombreuses fois dans la nature. Il y a plein d'exemples de réversion de l'un vers l'autre. Les gènes, ils sont connus. Donc, on pourrait dire, bah, tiens, je vais prendre du riz actuel et je vais le rendre pérenne avec quelques mutations. Et après, je lui coupe la tête tous les années, mais je laisse la plante en place. Ça pose aussi des problèmes, hein, parce que les maladies, elles aiment bien les plantes pérennes. Il faudra qu'ils résistent. Je ne vous dis pas que c'est simple. Mais on peut faire du tournesol pérenne, on peut faire des céréales pérennes, et ça, ça a peut-être des avantages. On peut aussi s'intéresser à des plantes chez lesquelles, pour l'instant, on ne s'est pas trop intéressé. Par exemple, l'amarante. Alors, le surnom de l'amarante, c'est le supermarché sur tige, parce que tout se mange. Les feuilles, les tiges, les graines, c'est super. L'amarante, c'est aussi une plante avec une photosynthèse C4, là, comme le maïs ou comme le sorgho, qui marche super bien. On a des légumineuses qui fixent l'azote de l'air. Vous savez, les légumineuses, elles fixent l'azote de l'air. Elles n'ont pas besoin d'engrais azotés, quoi. Ces plantes-là, il y en a qui sont complètement oubliées, qui sont très peu utilisées, qui n'ont pas été domestiquées comme l'a été le maïs. L'amarante, par exemple, c'était vraiment un immense succès chez les Incas. Ils l'aimaient tellement qu'ils célébraient l'amarante en faisant des sacrifices humains. Quand les Européens sont arrivés, ils ont dit « Allez, on bannit l'amarante, c'est associé au sacrifice humain, on ne mange plus ça. » Ils ont interdit la culture, etc. Mais il n'y a aucune raison aujourd'hui. L'amarante, c'est une super plante, mais elle n'a pas été domestiquée. On pourrait la sortir des tiroirs. Et voilà. On pourrait faire des tas de choses. On pourrait s'en servir en agroécologie aussi, parce que quand on fait de l'agroécologie, on cultive les plantes ensemble. Il faut qu'elles fleurissent en même temps, il faut qu'elles soient compatibles. Certaines plantes, elles ont des composés répulsifs pour d'autres plantes. Donc il faudrait peut-être leur enlever ces composés pour qu'elles vivent ensemble et qu'elles aient des bénéfices mutuels. Et enfin, en fait, on est capable de fixer la vigueur hybride. Les gens ont réussi à faire des riz qui restent vigoureux, sans aucun croisement, sans faire appel au moindre semencier. Ils ont fait en sorte qu'en fait, le génome hérité par la descendance soit exactement le génome de la mère et que le génome du père soit refusé. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune influence du père. Donc on a un riz qui est clonalement identique à son parent. Et si le parent était vigoureux, comme une hybride F1, l'enfant est vigoureux. On est capable de faire ça. Ça, évidemment, hein, si un semencier le distribue, il ferme boutique tout de suite, hein, parce qu'il donne une graine et il s'arrête, quoi, hein, ça ne lui rapporte rien. Donc il ne faut pas compter sur les semenciers pour aller mettre ce genre de technologie à disposition du public. Mais c'est possible. Depuis que ça a été fait, il y a eu 4 ou 5 générations et ça se propage. Et ça marche. Alors là aussi, hein, si tout le monde fait le même riz et que voilà, il va y avoir des clones partout, les maladies, etc., il faut le faire de façon intelligente. Hein. Peut-être qu'il faut le faire sur plein de variétés de riz différentes, il ne faut pas les garder toujours la même génétique dans le même champ, etc. Il y a des choses à faire. Mais mon avis personnel, c'est qu'il y a un potentiel et que ça serait peut-être pas mal de l'exploiter. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est: comment on régule ces plantes CRISPR-là ? On les fait déjà. Elles existent dans le monde, elles existent. L'Europe, pour l'instant, n'a pas statué sur qu'est-ce qu'on allait en faire. Pour l'instant, on les considère comme des plantes transgéniques. Vous voyez, on a 5 mutations. On dit que c'est comme un transgène. Celles qui avaient 5000 mutations, elles ne sont pas régulées. Celles qui en ont 5, elles sont régulées très méchamment. C'est-à-dire qu'elles sont interdites en Europe. Donc la question, c'est: est-ce qu'on veut les garder interdites ou est-ce qu'on veut profiter de ce potentiel ? C'est une question ouverte, c'est débattu au niveau européen. Est-ce qu'on veut légiférer sur la méthode d'obtention ou sur le produit ? Est-ce que ce qui compte, c'est la façon dont elles ont été faites ou les propriétés qu'elles ont à la fin ? Si on a une plante qui consomme plus de pesticides, on la veut ou on ne la veut pas ? Moi, je dirais, on ne la veut pas. Si on a une plante qui résiste naturellement à des pathogènes, à des maladies, je dirais, pourquoi pas ? Donc moi, je pense qu'il faut arrêter de légiférer sur... Alors, il y a une erreur dans moi. Il faut arrêter de légiférer sur la méthode d'obtention, il faut légiférer sur ce qu'on obtient à la fin. Et donc, voilà, le futur, il est dans les mains des législateurs, donc des politiques, donc des électeurs. Et donc, c'est pour ça que je voulais vous faire passer ces quelques messages. On domestique les plantes, tout ce qu'on mange, c'est pas naturel, on l'a profondément modifié. On l'a fait à l'aveugle, sans rien y comprendre, mais on a pas mal réussi. Sauf qu'on l'a fait dans un contexte de climat stable et d'abondance d'intrants. Et aujourd'hui, le climat, il n'est pas stable, les intrants, on en a moins et on n'en veut plus. Et donc, on va devoir changer des choses. Moi, je pense qu'il y a des tas de choses à changer, mais que simplement, donc je l'ai dit, hein, régime alimentaire, moins de protéines animales, sélection classique, agroécologie. Mais je pense personnellement que ça serait dommage de se priver de cette technologie pour des raisons dogmatiques, parce que pour moi, si on réfléchit bien à ce qu'on fait, on peut en faire des choses super. Mais voilà, moi, je diffuse la connaissance et je ne décide pas. Je vous remercie.